les sentiers du bonheur.
Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance.
Chers amis auditeurs, bonjour. Eric et Sabrina pour emprunter avec vous les sentiers du bonheur. Eric, face aux défis climatiques de notre planète, la sobriété est de plus en plus préconisée par les scientifiques ainsi que par les mouvements écologiques. Pour l'ONG Greenpeace, par exemple, la sobriété est la combinaison de politiques publiques et des engagements des citoyens et citoyennes. Collectivement, nous pouvons réduire notre demande en ressources naturelles et notre consommation d'énergie en éliminant le superflu et, in fine, réduire notre impact sur le climat et l'environnement. Voici un programme ambitieux, mais pas si simple à vivre.
Surtout dans une société de consommation dans laquelle la publicité nous rappelle constamment que notre bonheur dépend de notre pouvoir d'achat et de notre capacité à prospérer matériellement. Malgré tout, une part de plus en plus importante de la population adhère au principe de sobriété. Beaucoup ont déjà adopté ces pratiques quotidiennes écologiques comme le tri sélectif des déchets, la limitation de la consommation de viande et de produits laitiers, l'utilisation durable des appareils électroménagers ou encore la ventilation naturelle plutôt que la climatisation. Chacun de ces gestes citoyens compte, mais face aux défis environnementaux, on sait maintenant qu'ils ne sont pas suffisants. Plusieurs études ont démontré que les gestes individuels ne pourront contribuer au mieux qu'à atteindre le cadre des objectifs climatiques de la France. Le reste relève des entreprises et surtout du cadre fixé par les pouvoirs publics.
Ces notions de sobriété et de préservation de l'environnement existent-elles également dans la Bible?
Dans la Bible, ces notions ne sont pas formulées avec ce vocabulaire très moderne d'écologie ou d'éco-responsabilité, mais les principes y sont bel et bien présents. Dans l'évangile de Jean, par exemple, après avoir nourri une grande foule, on trouve cette préoccupation de Jésus qui demande aux disciples, je le cite, « de ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde ».
Pas de gaspillage, donc.
C'était de toute évidence important pour Jésus, ce qui nous invite, nous aussi, à être attentifs à cette question. La spiritualité ne déconnecte pas des réalités quotidiennes, bien au contraire, elle leur donne du sens. Le gaspillage nous concerne tous et à moins d'une intention volontaire à ce sujet pour l'éviter, on peut vite se retrouver en situation de gaspiller. Et oui, d'une façon générale, dans les Écritures, on retrouve cette approche éco-responsable. Et ce, malgré le contexte du péché qui a bien chamboulé le plan initial de Dieu pour notre planète.
Une approche éco-responsable dans la Bible? Partageons quelques éléments de cette approche.
Dans le livre de la Genèse, livre des commencements, dès le premier chapitre, les humains sont tenus pour responsables du vivant. Leur position de chef-d'œuvre de la création leur donne aussi les ressources pour assumer cette responsabilité. Ils sont les seuls à avoir été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Ils ont le pouvoir de domination sur la terre, la mer, les animaux, sur tout ce qui respire. Cette domination se comprend avec l'idée de préservation et de soin, et non avec celle de prédation.
C'est pour cela que dans Genèse 1 au verset 29, la nourriture humaine est essentiellement végétale?
Au commencement, il n'était pas nécessaire de tuer pour manger. Cela ne signifie pas aujourd'hui que nous devrions tous devenir végétaliens. Cela signale simplement l'intention de Dieu. Quand il confie la domination du vivant à l'humanité, il l'appelle à garder, à cultiver intelligemment la terre, pour son bien-être évidemment, mais aussi dans le profond respect de la planète.
Le sabbat qui conclut le récit de la création s'inscrit parfaitement dans cette approche éco-responsable, n'est-ce pas?
Tout à fait. C'est dès le commencement que Dieu crée ce septième jour dans lequel il est le premier à montrer l'exemple du repos, de la sobriété, puisque durant ce jour, aucune création matérielle, si on peut dire ainsi, n'est faite. Le temps et l'espace sont réservés à la relation et à la rencontre avec ses créatures et finalement avec sa création. C'est aussi une certaine conception du bonheur qui est proposée avec le sabbat des origines. Le bien-être n'est pas qu'une question matérielle, il est aussi relationnel. Mettre les questions matérielles au second plan pour consacrer 24 heures à la relation à Dieu, à nos semblables et aux vivants participe de manière décisive à la joie de vivre à laquelle nous aspirons tous. Ce n'est donc pas anodin si le sabbat fait partie des 10 paroles fondamentales de Dieu dans la Bible, 10 paroles appelées également 10 commandements.
C'est la quatrième parole, le quatrième commandement qui commence avec ces mots « Souviens-toi du jour du repos ».
Oui, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. On retrouve ce texte dans le livre de l'Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Dieu y rappelle l'importance de cette relation avec lui, mais il invite aussi à faire profiter du sabbat à son fils, sa fille, son serviteur, sa servante, à l'étranger.
À nos semblables, d'une manière générale, comme dans la Genèse.
Eh oui, et le commandement dit qu'il y a aussi un jour de sabbat pour le bétail.
On parle ici du vivant, de la nature.
Exactement. Avec le sabbat, la Bible présente une vraie direction pour l'humanité. La sobriété est une valeur. Elle ne nie pas les besoins matériels des humains et encourage donc à travailler pendant 6 jours.
Et elle insiste donc aussi à vivre avec le souci du vivant.
En proposant ce jour de relâche, le 7e jour, jour de renouvellement, tant pour les hommes que pour la nature.
Le sabbat existe depuis la nuit des temps. Pourtant, en 2023, c'est bien une planète à bout de souffle que nous laissons aux générations futures. Le nœud du problème sur les questions de sobriété ne reste-t-il pas le cœur de l'homme?
Dans l'Israël ancien, Dieu avait proposé des lois de sobriété comme celles qui conduisaient à laisser la terre en repos une année sur 7 et aussi une année sur 50. Ces lois proposaient de répartir plus équitablement le rendement de la terre et servaient aussi à réduire les écarts entre riches et pauvres. Elle mettait l'accent sur la confiance en Dieu pour subvenir aux besoins de l'homme et était aussi un moyen de préserver la terre. Le constat de l'histoire, c'est que ces lois ont rarement été mises en pratique. Les prophètes de l'Ancien Testament témoignent régulièrement dans leurs oracles, comme Amos, qui dénonce la mentalité de son époque. Voici ce qu'il écrit. « Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre production ?» Le prophète va même plus loin quand il écrit encore sur les projets de ceux qui refusaient le plan de Dieu. Ils veulent, dit-il, diminuer les mesures, augmenter les prix, fausser les balances, acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales et vendre jusqu'aux déchets du froment.
Cette mentalité existe encore aujourd'hui, malheureusement.
C'est vrai. Maintenant, dans la Bible, la loi indique une voie à suivre. Elle ne possède pas le pouvoir de changer les cœurs. Si nous reconnaissons que le problème se trouve à ce niveau du cœur, c'est-à-dire de la mentalité, du regard que nous avons sur la vie, alors reconnaissons aussi qu'il faut plus qu'une loi pour changer ce modèle.
Et c'est ce que propose la Bible avec Jésus.
C'est l'exemple ultime pour l'humanité. Jésus a inauguré par sa vie, sa mort et sa résurrection une nouvelle humanité. Celle-ci accepte le cœur nouveau, l'esprit nouveau, qui conduit à prendre plaisir, à vivre la loi de Dieu. Cette humanité s'inscrit volontiers dans le projet global des Écritures, y compris sur les questions de sobriété, dont le sabbat est le sommet de l'iceberg. La bonne nouvelle de la Bible, c'est d'annoncer qu'aujourd'hui encore, chacun peut choisir d'adhérer à l'humanité selon Jésus.
Oui, chers amis auditeurs, aujourd'hui, chacun peut choisir d'adhérer à l'humanité selon Jésus. C'est une question de foi, mais c'est aussi notre invitation pour marcher durablement et sobrement sur les sentiers du bonheur. À bientôt.
Les cieux et la terre célèbrent ton cœur, la gloire du Père, du Dieu créateur, qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. Joyeux, les fruits de l'automne et l'été radieux, largesse infinie que rien ne tarit, ça m'a rassasié tout être qui vit. Mais ô Dieu suprême, bien plus que tous tes dons, c'est ton amour même que nous adorons, aux sources éternelles de grâce. grâce et de paix. Ton peuple fidèle te loue à jamais.
Les Sentiers du Bonheur, un programme présenté par l'Église Adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement.
Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même.
Voici notre adresse.
Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2.
Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.